France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec Patrick Boucheron ce soir, historien, professeur au Collège de France, dont le dernier ouvrage s'intitule « Le temps qui reste ». Autant dire une curiosité pour un historien, puisqu'il y est question du présent, du passé, mais aussi du futur, un futur redouté, évitable peut-être, à condition de savoir décrypter ce qui se passe, et c'est sans doute l'ambition de ce libelle publié au Seuil. Notre invité nous le dira. Également au sommaire de cette émission, l'actualité de la semaine, dominée une fois encore par la figure du président de la République, Emmanuel Macron, conspué au salon de l'agriculture.
On en a marre, il vaut rien, il nous promet des trucs, il fait rien.
Emmanuel Macron contesté sur la scène internationale à propos de l'Ukraine et qui hier est allé inaugurer le village olympique à Saint-Denis à 5 mois des JO.
C'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. Au moment même où on est en train d'achever la reconstruction de Notre-Dame de Paris, eh bien ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. Donc on bâtit, on avance.
Le chantier des JO, on en parlera avec Patrick Boucheron, historien du Moyen-Âge et de la ville. On évoquera également avec lui un autre chantier qui lui tient particulièrement à cœur, celui de Notre-Dame de Paris. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer les colonnes de San Lorenzo, son autre ouvrage paru à l'automne, cheminement poétique et personnel à Milan, en Italie, un pays auquel on ferait bien de s'intéresser un peu plus d'après notre invité. Vous l'avez compris, ce soir, c'est Histoire de Patrick Boucheron. À 19h, ce sera le journal d'Hélène Filly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, question sur l'accès à l'IVG à 3 jours de la réunion du Congrès à Versailles pour son inscription dans la Constitution. Quelle est la réalité pour les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse en 2024? On en parle au 01 45 24 7000. Vous pouvez déjà appeler le standard. Merci à toute l'équipe de 18-20, Irène Ménahem, Mathilde Texier à la réalisation, Juliette Gou à la technique, Florian Dorémini, Clément Berman et Romain Leborgne.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Patrick Boucheron.
Bonsoir Claire, merci.
C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Vous êtes professeur au Collège de France, spécialiste de l'histoire médiévale à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages. Vous avez également dirigé une volumineuse histoire mondiale de la France qui a été un succès de librairie. Vous avez publié Quand l'histoire fait date, désormais disponible en poche. Et puis, fin 2023, vous avez totalement changé de registre. Vous avez publié un libelle au Seuil, son titre « Le temps qui reste », un livre sur le temps qui passe, qui nous échappe, nous conduit vers quelque chose qui semble inexorable. C'est une démarche inhabituelle chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous lanciez dans cette aventure ?
Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait mon genre. Ces livres d'intervention, je répugne au fond à faire la leçon depuis l'histoire aussi. C'est d'ailleurs un livre assez personnel également, puisque je tente simplement de mettre des mots assez sobres mais fermes sur une impression qu'on peut toutes et tous partager, qui est cette inquiétude face à l'imminence d'un danger qu'on peine parfois à déterminer mais qu'on sent au fond presque inexorable. Est-ce qu'il reste encore du temps pour échapper d'abord au dérèglement climatique, évidemment, puisque c'est de cela dont il s'agit quand on veut saisir ce qui au fond peut engourdir notre volonté politique. D'abord, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que pourquoi, alors que, vous savez, c'est comme dans un cauchemar, la maison brûle, Jacques Chirac le disait déjà il y a 20 ans, et puis on a mieux à faire que de sortir et de se sauver, et c'est donc quelque chose de plus puissant que la nécessité et l'urgence nous empêche d'agir. C'est quoi ? Ben moi je me suis dit, c'est peut-être d'abord le fait de croire que la crise est inévitable, que l'histoire est déjà écrite et que on ne réussira pas à prévenir la catastrophe. Ben si.
Vous dites qu'il faut arrêter de se dire que le désastre est inexorable. Il est tard, mais peut-être pas trop tard.
Et oui, mais c'est vrai aussi en matière politique. C'est vrai. On est sommé, en somme, de vivre dans une sorte de compte à rebours où on va nous dire, ben, en 2027, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est fait en histoire ? Moi, je suis historien, d'une certaine manière, pour me ménager des surprises. Parfois, on me dit, quand même, c'est terrible, la période dans laquelle on vit. Ben, franchement, même si j'en avais les moyens, j'aimerais pas en vivre une autre.
C'est vrai que le monde ne va pas bien, on l'a quand même entendu. Hein. Il y a le retour de la guerre aux portes de l'Union européenne, il y a Donald Trump qui trace son chemin, il y a les visions expansionnistes de Vladimir Poutine, il y a ce qui se passe à Gaza, le retour du tragique, et ça fait partie de... On finit par parler de la menace nucléaire, comme si c'était quelque chose de possible, pas d'imminent, mais presque.
Et à hauteur de l'enfant que je fus, qui a craint cette apocalypse nucléaire, et qui d'une certaine manière a troqué cette angoisse pour une autre, hein, c'est-à-dire l'effondrement climatique, on la voit revenir, et c'est très intéressant là encore ces formules du déni, on l'a vu s'exposer massivement et assez largement sur le spectre politique cette semaine, comme si il était écrit quelque part, fatalement dans le ciel, qu'on ne reverra jamais la guerre. Mais, enfin, qui le sait, qui l'a dit, malheureusement, il y a aujourd'hui une frontière, je dirais, entre le dedans et le dehors, entre l'intérieur et l'extérieur, qui s'est fracassé, et ça ne date pas d'hier. Il y a eu effectivement coup sur coup l'agression russe en Ukraine le 7 octobre et les bombardements de Gaza, et qui pourrait dire sincèrement que c'est quelque chose de bien regrettable, mais qui d'une certaine manière ne nous concerne pas. D'abord, ça nous déchire. Du point de vue des consciences, ça fait effraction dans nos intimités, dans pas seulement nos opinions, mais véritablement nos valeurs. Et bien sûr que ça nous concerne, que ça nous concerne directement. On regardera effectivement à la télévision, comme on le fait en ce moment même, des Russes prendre tous les risques pour aller prêter hommage à Navalny. Et nous, on considérera que de toute façon, on ne reverra jamais la guerre. Mais il faut revoir la guerre, c'est-à-dire qu'il faut la voir à nouveau, il faut l'affronter. Et pour cela, l'histoire peut nous servir à quelque chose, pas à énoncer des lois de l'histoire dont on serait au fond les esclaves, mais à nous apprendre à saisir les potentialités du temps.
Et à repérer certains signaux précurseurs éventuellement, qu'il faut apprendre à décrypter.
Qui peuvent être des
signaux faibles.
C'est
à ça que peut servir l'histoire.
Mais oui,
que peut l'histoire.
Mais écoutez, par exemple,
c'était votre leçon inaugurale.
Ce que peut l'histoire, c'est effectivement prêter l'oreille, vous le dites bien, à ces signaux faibles qui nous désignent dans l'actualité, même la plus désespérante, non pas seulement des manières d'espérer ou d'organiser notre pessimisme, mais ce qui pourrait, au fond, advenir, qui n'est pas encore tout à fait développé. Par exemple, il y a 10 minutes dans votre journal, on entendait coup sur coup, sans transition, comme on dit à la télévision lorsque on va parler de météo, eh bien, un premier ministre qui décidait de donner un tour de vis supplémentaire au contrôle des chômeurs, et puis ensuite, les Restos du cœur et des principes de solidarité qui quand même se développent dans la société française avec, on l'a entendu, l'interlocutrice qui disait, quand même c'est beau. Quand même, c'est beau de voir des femmes et des hommes se mobiliser pour que d'autres ne meurent pas dans la rue. Et aujourd'hui, d'évidence, si on reste obsédé par la loupe médiatique sous laquelle s'agitent les forces politiques, il n'y en a pas beaucoup qui défendent ces valeurs de solidarité. Mais elles existent dans la société.
Et puis, vous soulignez, par rapport à l'effondrement climatique, le rôle de cette jeunesse qui s'engage, qui se mobilise, vous citez Greta Thunberg, vous citez Camille Etienne. Alors Camille Etienne, tiens justement, elle était avec Greta Thunberg il y a 3 semaines à Bordeaux. Elles ont participé ensemble à un rassemblement contre un projet d'extraction de pétrole à la Teste de Buch en Gironde. On va écouter très rapidement la détermination de Camille Etienne. Elle est au micro de Valentin Dunat.
On ne peut pas autoriser de nouveaux puits de pétrole, c'est simplement suicidaire. On rappelle quand même qu'à Barcelone, en plein hiver, ils sont obligés, depuis Marseille, d'envoyer des camions d'eau pour donner à boire aux populations. On est en 2024, c'est ça qui se passe. Donc continuer à ouvrir des puits de pétrole quand on sait que le lien est très direct en fait. L'exploitation pétrolière directement induit des pénuries d'eau, induit un dérèglement climatique, induit des sécheresses très grandes. Et donc c'est ça qu'on doit refuser.
Elle vous réjouit cette jeunesse?
Bien sûr, parce que si on croit encore, et moi j'y crois vraiment, en la capacité effectivement des femmes et des hommes en société de s'organiser pour lutter contre les pouvoirs autoritaires, l'ignorance militante, tout ce qui d'une certaine manière va abîmer le monde, et pas seulement pour des raisons environnementales, mais aussi politiques, il faut bien voir où sont les ressources d'énergie, d'intelligence collective, d'enthousiasme, et la jeunesse militante, ce qui l'anime, ce qui la soulève, c'est l'autrice du soulèvement écologique, c'est les luttes féministes, c'est les luttes pour l'environnement. Et d'une certaine manière, on peut bougonner dans son coin, dire que c'est trop ceci, pas assez cela, c'est avec ces jeunes filles et ces jeunes hommes qu'on fera quelque chose, ou alors on fera rien. Mais on le voit bien, il y a là... qu'est-ce que ça veut dire soulèvement écologique? Qu'est-ce que ça veut dire soulèvement de la terre? C'est pas pour faire frémir d'horreur face à l'insurrection. Non, ça veut dire que c'est... En fait, c'est un soulèvement moral. Ça veut dire qu'on décide de ne pas, au fond, consentir à une histoire qui est écrite d'avance et qui nous empêcherait d'agir. C'est pas possible. Et c'est ça que j'ai tenté, mais vraiment très modestement, d'écrire. C'est des situations historiques où, au fond, on finit par précipiter une catastrophe à force de la craindre comme inévitable, comme inéluctable. Mais rien n'est écrit d'avance, et l'histoire consiste effectivement à se souvenir qu'on est capable toujours de plus et de mieux, de plus de possibilités d'agir qu'on ne le pense.
Et alors, vous faites référence à quelque chose que j'avoue je ne connaissais pas. Quelle heure est-il avant la fin du monde? Vous faites référence au Doomsday Clock. Racontez-nous cette histoire.
C'est une association de physiciens américains du Manhattan Project. Donc on est dans... justement, on s'est raconté, et c'est pas un hasard, l'histoire d'Oppenheimer, donc en 1947, qui craignent effectivement l'apocalypse nucléaire et qui calculent de manière un peu artificielle. C'est vraiment des lanceurs d'alerte, on dirait aujourd'hui, une manière de rendre vigilant l'opinion publique qui calcule le temps qui nous resterait avant la fin du monde. Et il serait minuit moins 5, bon, voilà. Et alors, on a d'ailleurs très tardivement, je crois que c'est à partir de 2007, qu'on a intégré le risque climatique dans ce décompte du temps qui reste. Et il a été, entre la détente et aujourd'hui, il a pu être minuit moins le quart, au moment où on était un peu rassuré sur notre avenir. Et là, il resterait 90 secondes.
Voilà, et c'est toujours le cas, 90 secondes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, c'est ce que vous dites. Il faut rester vigilant. Voir les signes et puis peut-être s'intéresser aussi à ce qui se passe chez nos voisins et notamment chez nos voisins italiens. On va y revenir, Patrick Boucheron, mais on va d'abord s'arrêter sur l'actualité de la semaine ici en France avec à la une l'avortement bientôt dans la Constitution, Emmanuel Macron dont les propos sèment le trouble à propos de l'Ukraine et d'abord la visite mouvementée du chef de l'État au Salon de l'Agriculture.
Ça fait pratiquement 40 ans que j'ai au Salon de l'Agriculture. Connaître le hall 1 fermé jusqu'à 14h, c'est du jamais vu.
Il valait mieux qu'il reste à l'Élysée ce matin et qu'il vienne là. Hein.
On en a marre.
Il vaut rien. Il nous promet des trucs, il fait rien.
C'était samedi matin. Pour la première fois dans l'histoire du salon, les forces de l'ordre ont dû intervenir au milieu des chèvres et des moutons pour protéger le chef de l'État face à des agriculteurs en colère.
Ça ne tient qu'à vous.
Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, attendez. Moi, j'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord? Non, je m'explique. Et c'est répondre, je m'explique.
Pour Emmanuel Macron, les responsables sont tout trouvés.
Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National et de mener une campagne politique.
Réponse du président du RN, Jordan Bardella, le lendemain au même endroit.
Nos militants n'ont absolument rien empêché, n'en déplaise au chef de l'État, donc je pense qu'il est atteint de dérives paranoïaques et très inquiétantes quand on est le président de la République française et qu'on a entre ses mains l'arme nucléaire.
Lundi, à l'Élysée, réunion de soutien à l'Ukraine en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron, pas loin de franchir le Rubicon.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée
et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Des troupes au sol, réserve immédiate de bien des pays, dont l'Allemagne, mise en garde du Kremlin et tollé mardi à l'Assemblée, le député LFI Bastien Lachaud.
Avez-vous conscience qu'avec un tel engrenage, vous risquez d'entraîner la France, l'Europe, le monde dans une guerre nucléaire ?
L'opposition vent debout de part et d'autre de l'hémicycle.
En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance. Alors, monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du président de la République la voix de millions de Français.
Si vous aviez été élue en 2022, madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens.
Mercredi, échange plus feutré au Sénat, mais ambiance des grands jours malgré tout.
Pour 267 contre 50, le Sénat a adopté.
Les sénateurs ont fini par se laisser convaincre d'inscrire dans la Constitution la liberté garantie de l'accès à l'IVG, ce qui n'était pas gagné d'avance.
C'est une immense victoire.
La sénatrice écologiste Mélanie Vogel, en pointe sur ce combat, n'a pas ménagé sa peine.
C'est la grandeur de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, on a donné une grande leçon au monde.
Prochaine étape lundi, à Versailles, où le Parlement se réunira en congrès pour cette révision de la Constitution. À propos des femmes, nouvelle prise de parole de l'actrice Judith Godrèche lors de la soirée des Césars.
Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ?
Le mot de la fin pour la grande gagnante de la soirée, Justine Triet. Elle a dédié son prix du meilleur film pour Anatomie d'une chute à toutes les femmes.
Ça commence à bouger, c'est bien. Ça donne de l'espoir pour la génération qui arrive, les jeunes qui arrivent. On a hâte que ce soit un non-sujet et qu'on n'en parle plus, quoi.
Une semaine en France, toujours en compagnie de l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Patrick Boucheron ?
Oh ben, il y en aurait beaucoup, c'est
mais
vrai
que... on a un peu de temps, alors on va y aller...
Le salon de l'agriculture, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce qui fait événement. Est-ce que ce qui fait événement, c'est le chahut, les lazzi qu'on a entendus, le président Macron pendant 13 heures sous le feu des critiques, ou les deux jours que Jordan Bardella, tranquillement, à pas de loup, il passe en faisant des selfies. L'histoire, parfois, c'est pas ce qui s'annonce bruyamment. C'est aussi ce qu'on finit par admettre, sans même y penser. Et donc, le danger est là, parfois.
Et c'est ça que vous dites dans votre,
oui,
dans votre libelle.
Oui, c'est que parfois, on finit par également précipiter des catastrophes en croyant en prévenir une autre. Et de ce point de vue, on voit bien que les grands désastres peuvent aussi s'avancer sans fracas et en douceur et avec une sorte de pente douce qui doit nous inquiéter. Alors d'où la nécessité de s'alerter et de voir la réalité. Avant-hier, il y avait un magnifique reportage, on peut le voir encore, j'imagine, en replay sur France 2, Les femmes de la terre, de Bourgeon. Ça dit la réalité de ce monde agricole et on voit bien aujourd'hui qu'on est à bien, sur bien des aspects, dessillés face à des réalités sociales qu'on a longtemps ignorées, tout simplement, ou méprisées, ou qu'on n'a pas considérées.
Voilà, faites référence à Édouard Bergeon, il était même venu avec sa maman dans
ce
studio.
Très beau.
Et on peut le réécouter également. Cette montée, en tout cas, du RN, elle vous désespère, parce que vous le dites, c'est toute votre vie politique que vous avez assisté à cette montée.
Moi, quand Jean-Marie Le Pen a commencé son ascension, c'était en 1984, j'étais à peine en âge de voter, et j'aurais 60 ans quand sa fille sera en position de l'emporter. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a entendu? On s'est laissé bercer ou berner par cette ritournelle de la montée du Front National. Et on peut changer de nom pour ce parti. Évidemment, sa dynamique reste la même. Moi, je crois qu'il y a aussi d'autres possibilités politiques qu'on doit envisager. Celle peut-être plus terrible, que peut-être que au train où ça va. la victoire du Rassemblement National n'est peut-être même pas nécessaire pour que ces idées soient au fond au pouvoir et plus que ces idées, des pratiques. Je ne sais pas comment les choses vont tourner, mais il est possible que les historiennes et les historiens du futur, lorsqu'ils décriront la lente et inexorable montée des populismes, prennent comme date butoir le 19 décembre 2023 le vote de la loi immigration et asile par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, l'événement, il commence à un moment, mais on le saura plus tard, et on le saura trop tard.
Et c'est là que vous dites qu'il faudrait qu'on fasse un petit pas de côté en regardant ce qui se passe chez les Italiens.
Ben oui, les Italiens, c'est intéressant, parce que quand même...
Laboratoire.
Ben oui, ce dont il s'agit effectivement depuis l'élection de Meloni, d'abord, c'est pas de la victoire de l'extrême droite, c'est de la victoire d'une alliance de toutes les droites. C'est-à-dire ce qui peut aussi arriver, c'est-à-dire le moment où les digues lâchent définitivement et où depuis une position qui est peut-être moins véhémente que celle de Salvini, qui a d'ailleurs les faveurs de Marine Le Pen, puisqu'elle dit non, Meloni en fait elle est trop molle d'une certaine manière, et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ça change. Il faut regarder de très près les reportages, ce qui se passe en Italie, parce que c'est un peu contradictoire. Certains vont dire, bah finalement, il y a une telle dégradation, par exemple, de la langue publique. Moi, j'y suis très attaché. Quand on voit de quelle manière ordurière Salvini parlait, qu'on se dit, on peut pas faire pire. Et d'une certaine manière, Meloni ne fait pas pire. Mais dans les pratiques, ce sont des médecins qui sont empêcher de pratiquer des IVG dans des cliniques ou dans des hôpitaux, ce sont des gens qui sont censurés ou qui s'auto-censurent. C'est toute une série de décrochages en fait qui n'ont même pas besoin d'ailleurs de changements législatifs spectaculaires parce que tout était prêt. Et je dirais que d'ailleurs, si on veut encore un peu plus s'inquiéter, le système politique italien n'offre pas les possibilités à un pouvoir autoritaire que la Ve République pourrait lui offrir.
Effectivement, tous les outils sont en train d'être mis en place et on se demande, est-ce qu'on posait aussi la question, où sont passés les intellectuels ?
Alors je sais pas, évidemment c'est qu'une question qu'on peut se poser pour s'en inquiéter. Il y a aussi quand même, il faut le dire pour cesser de se flageller, une prise de conscience de la nécessité d'une expertise, par exemple. Alors moi, si vous voulez, j'ai été longtemps du côté, mais qui est peut-être un côté facile, je le reconnais aujourd'hui, d'un ce qu'on appelle l'intellectuel critique, c'est-à-dire celui qui ne croit pas utile de chuchoter à l'oreille du pouvoir et qui méprise un peu, de manière ironique, les experts qui font le jeu du conseil ou de l'influence, les think tanks. Moi, ça a jamais été mon genre. Mais au fond, c'est aussi parce que je savais que d'autres le faisaient. Regardez du point de vue des violences policières, par exemple, c'est tout à fait intéressant. Vous avez toute la littérature des sciences sociales, vous pouvez lire Fabien Jobart, tout ce qu'on lit, au fond, nous indique que la position de la France est en totale contradiction et contravention avec les pratiques européennes globales de maintien de l'ordre. On le sait. Et il est possible même que les sociologues, les chercheuses et les chercheurs qui travaillent là-dessus soient consultés par les ministres ou auditionnés par les commissions parlementaires et ils s'entendront dire « bah oui, on le sait bien, bravo, merci, vous avez bien travaillé, mais PS, on n'en tiendra aucun compte ».
Et c'est vrai que c'est ce qui se passe dans ce domaine-là. Pour vous remonter un peu le moral, Patrick Boucheron, on va dire un petit mot des chantiers en cours, parce que vous êtes historien du Moyen-Âge et de la ville. La ville, oui, est en perpétuelle transformation, on le voit avec les Jeux Olympiques. Hier, Emmanuel Macron, encore lui, s'est rendu à Saint-Denis pour l'inauguration du village olympique à 5 mois des Jeux, à l'occasion de cette inauguration. Il a pris la parole pour saluer une nation de bâtisseurs.
C'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. au moment même où on est en train de, en temps là aussi, d'achever la reconstruction de Notre-Dame de Paris, eh bien ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. Et malgré le Covid, malgré les 2 ans d'inflation, malgré la guerre en Ukraine, les équipes de la Solideo, l'ensemble des entreprises en lien avec tous les élus locaux, les aménageurs, les architectes, etc., ont fait un travail extraordinaire qui fait que c'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps absolument record. Donc on bâtit, on avance.
On bâtit, on avance. Vous suivez ça de très près, Patrick Boucheron. La ville qui change avec ses Jeux Olympiques, avec le chantier de Notre-Dame qui avance aussi.
Bah oui, d'abord par déformation professionnelle, puisque j'ai d'abord été un historien de l'urbain. Je me suis intéressé au chantier, l'histoire de la construction des cathédrales, l'histoire aussi au-delà, à partir de la fin du Moyen-Âge, de cette certitude, de cette croyance, de cet espérance humaniste qu'on pouvait changer la vie en changeant la ville. Je remarque d'ailleurs au passage que ce qui était quand même une des grandes espérances, oui, politiques des années 80 et 90, la politique de la ville, là on parle des chantiers monumentaux et on en dira du bien, évidemment, parce qu'ils le méritent, en somme. Enfin, quand même, vous parlez des Jeux Olympiques, c'est vrai que pendant un mois, on n'a eu ni ministre du logement, ni ministre des transports. Et quand on a un ministre du transport, je veux pas polémiquer, mais enfin, on utilise, quand on a un ministre du logement, je veux pas polémiquer, mais on utilise le logement comme un marqueur de droite. Ce qui est quand même très impressionnant. Donc, on utilise la mémoire comme un marqueur de gauche, la panthéonisation de Manouchian, c'était très réussi, et le logement comme un marqueur de droite, et là, effectivement, on va rappeler que les communes les plus riches ne sont pas obligées de construire des logements sociaux, et qu'en revanche, on va aider les propriétaires à expulser les squatteurs. C'est quand même assez sidérant. Donc on pourrait dire que, moi en tant que historien de la ville, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais je suis pas non plus adversaire de la politique monumentale. Et puis je me dis aussi des fois, c'est vrai, que face à ces grands événements, eh bien, on serait bien inspiré je dis pas de ravaler notre mauvaise humeur, parce que notre mauvaise humeur, elle est fondée, hein. Mais au fond de considérer qu'il y a là aussi une aventure collective. En tout cas pour Notre-Dame, c'est évident.
Alors Notre-Dame, je sais que vous y tenez beaucoup, c'est un chantier que vous suivez de près. Le démontage de l'échafaudage de la flèche a commencé il y a 2 semaines, il se poursuivra dans les mois qui viennent. En janvier, une étape essentielle a été franchie, celle de la restauration de la charpente, moment d'émotion pour les ouvriers présents. Isabelle Pirou de France Bleu Paris était là.
Lentement, la grue a levé le grand bouquet de genêts pour l'approcher de l'abside du chœur. Là, c'est le plus jeune charpentier du chantier de Notre-Dame qui s'en est saisi et qui a fixé le bouquet sur le mât au sommet du chœur.
C'est un grand, grand moment.
Martin Charlet, 22 ans, n'en revient pas.
Puis moi, je vais faire qu'un an dans l'entreprise et j'arrive pile à l'année où il se passe ce chantier-là. Pour moi, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir voir ça. Mais quand je l'ai raconté à mes parents, ils étaient super fiers de moi. Enfin, c'est vraiment une chance énorme en tant que jeune charpentier.
La fin d'un travail considérable, la charpente médiévale a d'abord été taillée et montée à blanc, en chêne massif au sein des ateliers Perrault, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, en Anjou, avant d'être assemblée à Notre-Dame.
C'est un chantier qui a été fait de façon vraiment traditionnelle, comme c'était fait à l'époque.
Matteo Pellegrino, charpentier.
Avec les mêmes techniques, les mêmes outils, les mêmes gestes. Et c'est ça qui donne justement beaucoup de sens, à mes yeux, à l'ouvrage qu'on vient de terminer. C'est des haches à un seul biseau qui ont servi au façonnage des poutres. Ça nous permet de suivre la forme naturelle de l'arbre. Quand on façonne le bois mécaniquement, eh ben on fait des poutres qui sont droites. Là, on peut préserver la forme naturelle, ce qui fait qu'en termes de solidité et de stabilité dans le temps, c'est vraiment exceptionnel.
Et Philippe Josse, le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, va plus loin.
Et on est très confiant sur le fait que cette charpente en chêne massif, elle va tenir autant que sa devancière, au moins 860 ans.
Voilà.
Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas que le chantier de reconstruction, il y a eu aussi un chantier archéologique qui fait de la cathédrale Notre-Dame véritablement une aventure scientifique. On a produit du savoir comme on en avait rarement produit.
Voilà, réouverture prévue de la cathédrale le 8 décembre prochain. Dans un instant, Patrick Boucheron va parler de vous, de votre, de votre histoire.
Baby girl is fine in 19.
green. Brown eyes smelling real sweet. Kitty tied with a strong heartbeat. The way she put that thing on me, that hoe ain't mad, and if you lose control, Michael says she gon' break my heart and then take my soul.
Gabriel's Angels and Queens, programmation de Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, qui aime l'histoire, mais aussi la philosophie, la littérature et les villes, et qui, paraît-il, n'a jamais su retenir les dates.
Non.
C'est en tout cas ce que vous expliquez en préambule de votre livre, « Quand l'histoire fait date ». C'est peut-être un peu fâcheux pour un historien d'être fâché avec les dates, mais enfin, toujours est-il que moi j'ai bien noté que vous êtes né en 65, Patrick Boucheron, que vous êtes fils de médecin, peut-être même d'anesthésiste, hein, si j'en crois le narrateur.
C'est pas totalement impossible.
Des colonnes de San Lorenzo, l'autre livre que vous avez publié en 2023, Balade poétique, parce que vous aimez la poésie, c'est clair et net.
Oui, et puis au fond, j'ai deux tentations. J'ai une tentation publique que vous m'invitez à exercer ici, et puis une tentation, on va dire, un peu poétique, de retrait. Mais non, pas retrait, je retire, parce que d'une certaine manière, c'est depuis une position de savoir et de langage sur le monde qu'on peut en dire quelque chose d'un peu vif et qui aura, je crois, une efficace directe.
Vous avez beaucoup de passion dans la vie, hein, l'histoire, la littérature, la philosophie, mais aussi la radio. Alors je vais vous faire écouter quelque chose.
Églantine en vaudour. Allez les copains, faites des économies d'énergie. Écoutez Radio Églantine.
Voilà, Radio Églantine.
Ah, alors, j'avais jamais entendu.
Voilà, il paraît que c'est là que vous avez commencé à faire de la radio entre 81 et 84. Alors, j'en reviens aux dates, vous ne deviez pas être bien vu à l'époque. 81, vous aviez quoi, 16 ans ?
15 ans, oui.
Voilà, et c'était à Chennevières-sur-Marne.
Oui.
Et vous faisiez une émission qui s'appelait Le jour du poisson.
Parce que c'était le vendredi.
Voilà, c'est ça.
Oui. Donc, ah ben je suis quand même je
vous l'aviez jamais entendu cette
ah ben il doit y avoir des cassettes dans ma
parce que c'est vrai
qu'il
y avait pas le numérique
d'enfant mais je savais pas qu'il y avait tout est archivé décidément
voilà effectivement sinon une petite question vous faites j'ai dit il y a eu la radio notamment ici à France Inter il y a eu des séries documentaires sur Arte vous êtes dans l'édition aussi pour Le Seuil des passions pour l'écriture mais aussi pour le théâtre, Patrick Boucheron. J'ai cru comprendre que vous participiez à l'aventure d'un futur théâtre à Paris, le théâtre de la Concorde.
Oui, c'est l'espace Cardin devient le théâtre de la Concorde et dédié au débat, à la confrontation d'idées, parce que je pense que c'est ce qui d'ailleurs ressort de notre conversation, il faut commencer par là. On se parle vraiment trop mal, enfin en tout cas dans l'arène publique et évidemment dans beaucoup trop de médias. Et à partir du débat, à partir de la démocratie, eh bien essayer de créer des théâtres, un théâtre de l'alliance, de la relation, qui met la création d'une certaine manière à bonne distance de la société. Voilà. Donc c'est une nouvelle aventure. Bon, le théâtre, voilà, j'en ai fait aussi avec Mohamed El Khatib et c'est une manière d'une certaine manière c'est une façon d'éprouver d'autres formes d'adresse. Bon, la radio, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça, c'est pas à vous que je vais le dire.
Mais il y a aussi le Collège de France. Hein. On va en dire un mot quand même, parce que vous êtes une star là-bas. Patrick Boucheron, vous pouvez pas vous en cacher. Non. Les gens font la queue pour venir vous écouter.
Parce que je parle pas de mathématiques. C'est très simple ce que je raconte. Je le dis en langage naturel. Non, mais c'est vrai que le Collège de France, c'est aussi pour moi un lieu où on peut s'exercer à sa liberté, à sa pleine liberté. C'est vrai que cette diversité d'approches, elle explique pourquoi moi je crois que je dois défendre la discipline historienne, voilà, parce qu'elle est parfois attaquée, mais depuis une pratique de l'histoire qui reste singulière et dont je chéris au fond la liberté et la singularité. Et la force du Collège de France, c'est que quand vous y êtes convié, eh bien, vous devez, au fond, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est être libre. C'est être délibérément libre. Et c'est, vous êtes condamné à votre propre liberté, ce qui est une condamnation très lourde, quand même. Et donc, on vous dit, ben voilà, vous devez enseigner la recherche en train de se faire. C'est ce que je fais en ce moment, je parle de l'amour. Politique de l'amour, c'est quand même ce qu'on appellerait de la contre-programmation, parce que c'est pas exactement ce qui nous éclabousse d'évidence dans le monde, mais on a le droit de parler aussi de l'amour au XIIe siècle.
Voilà, l'histoire en train de se faire, parce que pour vous, l'histoire c'est une aventure collective, l'avez toujours dit.
Oui, bah vous évoquiez l'histoire mondiale de la France, qui est pour moi un livre manifeste que la manifestation de la joie d'être ensemble et de construire collectivement une façon de s'adresser à la société. Et pour moi, c'est un exercice collectif.
Merci mille fois, Patrick Boucheron, d'être venu ce soir sur France Inter. Le temps qui reste, c'est un libelle, c'est au seuil, et c'est donc un petit livre fort intéressant. Merci mille fois, et puis il y a tous les autres ouvrages, on les met sur la page de l'émission. Merci à vous.